Amateurs d'opéra, voici Opéra Gora, présenté, vous le savez, maintenant depuis des années par votre ami Christian Segarici, chef d'orchestre, directeur d'opéra et émission mise en onde par la très compétente Nancy Zautier. Alors, notre dernière émission, nous avons eu le plaisir et l'honneur de vous présenter un compositeur d'opéra français, ce qui déjà, je trouve, est une chose assez rare, compositeur actuel, joué, dont plusieurs opéras ont déjà été joués, et qui est sur le point là de mettre en création son nouveau bébé, issu d'une, on va dire comme ça, d'un reflet de la comédie de Dante, et surtout de son symbolisme, de ses dernières paroles, l'amour qui fait tourner le soleil et les autres étoiles. Et cela lui a permis, dramaturgiquement, de mettre en musique l'histoire des moines de Tibérine, fidèles courageusement à leur foi, de continuer leur chemin initiatique. Écoutez, c'était tellement surprenant, mais surprenant dans le bon sens, intéressant, que finalement nous avons décidé de poursuivre et de refaire une autre émission un petit peu plus approfondie sur la manière de composer aujourd'hui, en 2023, un opéra qui ne soit pas de la redite des opéras anciens, qui soit tout à fait dans les critères, je dirais, encore y a-t-il des critères en art, mais enfin, disons, dans les habitudes de ce que l'on fait à notre époque, et en même temps d'être tout à fait écoutable et tout à fait quelque chose que l'on peut s'approprier, c'est-à-dire que l'on peut chantonner soi-même en sortant de l'écoute sans être pour autant un musicien accompli. Voilà, alors re-bienvenue mon cher Éric Breton, puisque c'est le nom de ce compositeur que vous commencez à connaître. Mais maintenant, il va falloir que tu nous en dises un petit peu plus sur la manière de composer qui m'avait tellement étonné, vu que tu as fait cela avec des moyens qui, pour moi, sont maintenant quelque chose de tout à fait sidéral, c'est-à-dire des logiciels, et l'on croit entendre la Philharmonie de Vienne.
Eh bien, merci mon cher Christian, je reste un petit peu quoi devant une telle avalanche de compliments. Voilà, alors juste je précise que ce à quoi tu fais allusion, là, c'est-à-dire la réalisation, c'est effectivement, j'ai réalisé des maquettes de mon opéra entièrement avec des sons pilotés par ordinateur, mais bien entendu, toute la partie de composition de la musique proprement dite est faite, on pourrait dire, à l'ancienne, quoi, hein, voilà. C'est-à-dire, c'est justement peut-être un petit peu ce qui fait quelque part la différence, c'est que justement, je n'écris que de la musique que j'entends dans ma tête. Et ensuite, effectivement, j'ai réalisé toutes les maquettes sur lesquelles sont venus poser leur voix de nombreux amis, chanteuses et chanteurs d'opéra qui, on l'avait déjà dit la semaine dernière, à l'occasion d'un passage dans le coin, venait se mettre devant le micro. Donc voilà, cet opéra est prêt, il attend, disons, le déclic, le déclenchement. Évidemment, il y a pas mal de pistes qui sont en train de se faire jour, et nous pensons que ça devrait assez rapidement parvenir à l'accomplissement.
Ça, écoute, non seulement je te le souhaite, mais j'en suis pratiquement convaincu, vu déjà les petites réponses que j'ai eues par certains musiciens, même certains compositeurs, en herbe, certes, pour certains, mais enfin, qui ont été intéressés par cette façon moderne, populaire, avec un grand P, bien entendu, hein, pas du tout populacier, pas du tout facile, mais au contraire, tout simplement accessible. C'est ce qui m'intrigue le plus, ça. Voilà, c'est pour ça que j'aimerais que tu nous dises comment on peut faire une musique qui soit tout à fait écoutable, mais en même temps, eh bien, on sent, hop, on dit, ah, mais ça, attends, ah, ça, c'est pas du 19e siècle. Ça, c'est même pas du 20e siècle, c'est du 21e. C'est la musique actuelle. C'est une gageure.
Alors, la réponse à cette question, dans mon esprit, se situe tout simplement dans le fait qu'il faut raisonner, composer avant tout comme un mélodiste, avant de composer comme un compositeur. Alors je fais un petit peu la différence dans la mesure où, quand on compose de la musique, on veut immédiatement s'orienter vers des choses très complexes, très compliquées, dans lesquelles on a à cœur de démontrer une maîtrise parfaite de systèmes extrêmement élaborés, de langages particulièrement subtils. Il faut montrer qu'on a fait beaucoup de contrepoints, beaucoup de fugues, ainsi de suite. Et moi, j'ai fait tout ça aussi, et je sais le faire, mais j'ai réussi, peut-être par un travail sur moi-même, je ne sais pas, mais j'ai réussi à passer un petit peu au-dessus et à me dire, tout compte fait, qu'est-ce qui est important dans la musique ? Dans la musique, ce qui est important, c'est est-ce qu'on est séduit ou pas ? On avait déjà parlé de cette notion le mois dernier. Et ça reste quelque chose de totalement capital, fondamental dans ma démarche. Moi, ce que j'aime, c'est séduire. Séduire dans le sens noble du terme, c'est-à-dire prendre quelqu'un qui est là, l'emmener sans qu'il se rende compte de quoi que ce soit, l'emmener ailleurs. Et pour ça, il faut une mélodie, avant tout. Toutes les musiques basées sur des systèmes extrêmement complexes qui ont pour but et pour objectif de provoquer une espèce de sentiments...
En fait, ce qu'on appelle la musique impressionniste.
Pour moi, c'est très intéressant à certains moments, c'est très intéressant pour l'orchestration, c'est très intéressant pour des tas de choses, mais ça passe un petit peu à côté. Par contre, une mélodie qui reste, quelque chose, ça s'imprime dans le cerveau et dans la mémoire.
Mais ça, c'est très compliqué. Écoute, tu me donnes un flash, là. Tu sais, on se connaît depuis longtemps, donc je t'avais dit que j'avais eu pour professeur de composition Olivier Messiaen. Alors, Olivier Messiaen, donc, son chef-d'œuvre, c'est bien sûr Saint-François d'Assise, avec une musique longue, très scientifique, etc., etc., ayant, avec tout le respect que je lui dois, quelquefois un peu de mal à devenir... quelque chose de facilement écoutable. Il faut déjà, je trouve, un niveau de professionnel. Mais je me souviens d'une conversation qui se rapprochait à ce que l'on dit maintenant, et on parlait de la mélodie. Et tu sais ce qu'il m'a dit ? Je n'ai jamais oublié ça. Il m'a dit, tu sais, ce qui restera à jamais de Jacques Offenbach, qui était un type formidable, il m'a dit, c'est trois sons, pas quatre, trois. Mi, fa, fa, mi, mi, ré, fa, fa. Trois sons, la fameuse barcarolle.
Oui, oui, oui.
C'est fabuleux,
oui, oui.
Ça,
ah
c'est
ben,
fabuleux.
Oui, oui, oui.
Mais alors, ça vient d'où, ça ? Ne me dis pas que c'est en cherchant, ça tombe du ciel tout cuit, ou non ?
Non, alors pas exactement. Ça serait trop beau, et puis en plus, ça serait totalement injuste, parce qu'il y aurait des gens qui auraient travaillé pendant des années, des décennies, pour apprendre vraiment à maîtriser un langage, et qui se verraient dépassé par des gens qui débuteraient immédiatement. Mais on trouve quand même des exemples comme ça dans l'histoire de la musique. Mais je vais juste rebondir sur ce que tu viens de dire à l'instant. Là. Tu as prononcé le mot scientifique.
Ouais.
Et je pense que là se situe peut-être une des pistes d'explication intéressante. Je pense que les études de composition emmènent les élèves, les futurs compositeurs, les musiciens, dans des sphères tellement complexes qu'ils ont beaucoup de difficultés pour oublier quel est le but initial, initiatique même de la musique, à savoir la mélodie. Et c'est là où on retrouve, alors je sais que toi tu n'aimes pas les Beatles, mais voilà. Mais moi par exemple, je reste toujours admiratif justement de ces chansons, de certaines chansons, il y en a des tas, hein, je cite ça, mais où, avec 3, 4, 5 accords, une mélodie, tout d'un coup, il y a un truc qui s'imprime et ça ne nous quitte pas. Et ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et j'ai toujours gardé en tête l'idée qu'un bon morceau de musique, que ce soit une chanson, que ce soit un air symphonique ou un air d'opéra, devrait pouvoir s'exécuter avec une guitare, être accompagné par une guitare ou par un piano, mais hyper basique. Voilà. Tant qu'on a besoin de choses extraordinaires, de mettre en marche des moyens titanesques pour que ça puisse commencer à ressembler à quelque chose, je pense qu'on est à côté de la plaque. Ce qui ne nous interdit pas d'utiliser ce genre de choses de temps en temps, je ne m'en prive pas. Mais quand j'utilise des effets sonores, je les utilise pour colorer quelque chose qui existe déjà, enfin, selon moi. Voilà, voilà, c'est un petit peu. Et je veux dire, un des reproches, c'est peut-être exagéré, mais enfin, disons, une des observations que je fais, comme toi, dans la musique de la fin du 19e, du début du 20e, et ainsi jusqu'à nos jours, c'est que petit à petit, c'est l'effet sonore qui s'est substitué à une véritable pensée mélodique.
Voilà. Oui, tout à fait, je comprends et j'adhère bien entendu à cela. Mais pour moi, si tu veux, qui ne suis justement pas un compositeur, je suis toujours en quête de me dire, mais comment est-ce que l'on peut trouver la musique de l'Ave Maria de Schubert, par exemple? Il semble que c'est là, ça flotte au-dessus de la tête, c'est même pas quelqu'un qui l'a composé, c'est... Tu sais, ça fait penser un peu à Michel-Ange, tu sais, qui disait, mais moi, attendez, David, c'est pas moi qui l'ai fait. J'avais un morceau de marbre, et j'ai enlevé tout ce qui y avait autour, et puis est apparu David.
Exactement.
Mais attends, ce n'est qu'une boutade. Parce que la mélodie, il faut quand même la trouver.
Oui, mais alors, là où je partage totalement ce qu'avait dit Michel-Ange, comme quoi, dans une certaine mesure, ça me permet, disons, de me penser fugitivement comme étant l'égal de Michel-Ange. Merci de m'avoir tendu la perche. Non, c'est simplement que... en ce qui me concerne, moi je trouve que la musique est déjà dans le texte. Et c'est pour ça que pour moi la découverte de la mélodie, puis ultérieurement la découverte de l'opéra, des opérettes, des comédies musicales, des choses comme ça, a été absolument décisive. Parce que moi je lis un texte, de suite j'ai une musique qui commence à chanter dans ma tête.
Ah, ça commence par ça.
Voilà, ça commence exactement
par
ça.
Au début était le verbe.
Voilà, au commencement était le verbe, exactement. D'accord. Et d'accord. Je pense que chez beaucoup de compositeurs de chansons, c'est exactement le même processus. Je pense qu'un type comme Henri Salvador, par exemple, on lui met un texte « J'aimerais tant voir Syracuse, j'aimerais tant voir Syracuse ». Et après, ben, il ne reste plus qu'à tirer le fil. Et la mélodie est là. Moi, c'est comme ça, en tout cas, que je travaille.
Je comprends. Bon, si on écoutait un petit peu
de musique. Volontiers. Alors, là, cette fois, c'est moi qui ai proposé les extraits. Hein, le dis pour nos auditeurs.
Tu es là pour ça. Voilà.
Alors, je présente justement un premier extrait qui, pour moi, exprime ce principe de relance permanente de l'attention que j'aime bien avoir, que j'aime bien utiliser. Donc, on va avoir un moine qui va parler à une jeune fille, et de cet amour terrestre va naître un amour divin ultérieurement. Mais bon, il faudra que vous veniez voir et écouter l'opéra si vous voulez absolument tout savoir. Mais en tout cas, il va commencer par quelque chose qui est un petit peu intemporel, c'est-à-dire il se rappelle, il revient vers le... Et là, il va dire « du premier jour où je vis son visage en cette vie », ainsi de suite. Donc là, je commence par quelque chose qui est assez mobile et qui va être plutôt une mélodie ascendante. Voilà. Deuxième partie, là, il raconte véritablement, il se remet à l'époque, donc il parle au présent. Hein, voilà. Et il dit « avant de la quitter », ainsi de suite, il va faire ça cette fois sur une mélodie plutôt descendante. La conclusion de tout ça, ça va être quand il lui pose une question, et ça va être pratiquement sur une note tenue. On est presque recto tono, parce qu'il l'interroge et il dit « Est-ce que tu me reconnaîtras le jour où nous nous croiserons au paradis ?» Alors, jusque-là, on est dans quelque chose de très tonal, avec une harmonie subtile derrière. Et puis, tout d'un coup, la réponse de la jeune fille va être, au contraire, basée sur une série, c'est-à-dire l'utilisation de la musique sérielle. Et la jeune fille va, elle, s'exprimer sur quelque chose d'extrêmement philosophique. Le monde de l'amour n'est pas celui de l'immortalité, mais celui de la métamorphose. Et pour ça, je choisis une série qui est basée uniquement sur des demi-tons et des tons. Et en plus, au milieu de la phrase, on va monter d'un demi-ton. Voilà. Donc, on va perturber un petit peu le centre de gravité de l'oreille pour justement donner à cette phrase une signification presque initiatique, ésotérique. Voilà. Et pour terminer, je termine sur un véritable choral de cuivre. Voilà, un choral descendant avec une marche d'harmonie, c'est-à-dire quelque chose qui nous ramène dans un territoire extrêmement connu et qui nous fait sentir bien après toutes ces interrogations. Voilà, nous écoutons l'extrait.
Agora Côte d'Azur.
Du premier jour où je vis son visage en cette vie. Jusqu'à ce jour, le cours de mon chant ne s'est jamais rompu. Avant de la quitter pour les feux qui m'ont conduit ici, ma voix résonna vers elle une dernière fois.
Cet extrait, je le connais bien entendu, puisque tu m'as remis le score complet, le score, c'est-à-dire donc la partition intégrale avec tous les instruments. Et alors, si je devais résumer ma pensée, je dirais que chez toi, la composition musicale procède d'une manière architecturale, mais d'une manière architecturale non pas matériel, comme souvent l'architecture, hein, en bas on met le plus solide, et puis au plus on monte, au plus on allège. Non, pas du tout. C'est une espèce d'architecture mentale où, en premier, passent les idées, les paroles, comme tu as dit, mais les paroles sont porteuses d'idées, bien entendu. Et avec ça, eh bien, hop, tu fais ta sauce musicale et on peut assez facilement, je t'assure, voir le squelette, je dirais, de la structure immatérielle. C'est très curieux, une structure immatérielle, mais elle se voit. Mmh. Elle se voit. On voit, si tu veux, où tu veux en venir et comment tu fais. D'ailleurs, le choral de cuivre, c'est tellement inattendu, je dirais, pour venir de où viennent les personnages. Là,
oui, exactement. Hein, voilà, c'est après cette réponse sérielle de la jeune fille et des mots extraordinairement éthérés, quoi, ouais. Voilà, qui nous amènent ailleurs. On parle de métamorphose. Eh bien, je termine avec un choral, tout ce qu'il y a de plus tonal, marche harmonique. Alors, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, là, je pense subitement, tu as parlé de Michel-Ange tout à l'heure, moi je pense à Léonard de Vinci qui avait dit « l'arte est cosa mentale », c'est-à-dire, avant tout, ça se situe dans la réflexion, dans la pensée. Voilà. Et ça se retrouve dans la manière dont je compose, parce que je cherche toujours la cohérence. C'est-à-dire quelque chose dans lequel on puisse trouver du début à la fin une espèce de fil conducteur. Et justement, dans l'exemple suivant que j'ai choisi, là, nous allons parler de la pulsation. La pulsation, c'est une notion que j'ai évoquée le mois dernier, mais qu'on n'avait pas eu le temps vraiment de véritablement élaborer, d'expliciter. La pulsation, en fait, c'est ce qui nous permet de mesurer le temps. Et à partir du moment où on a cette pulsation qui est... Alors la pulsation, c'est pas automatiquement un truc qui fait boum-boum derrière. Hein, voilà. C'est ce que j'appelle la pulsation, c'est cette espèce de rebondi, de bond permanent qu'on a derrière, qu'on peut avoir quand on parle d'une manière extrêmement développée, comme ça, ainsi de suite. C'est ce qu'utilisent les gens qui veulent hypnotiser ou les choses comme ça. Et dans la musique, c'est ce qui va permettre tout d'un coup de dépasser un petit peu l'immédiateté et de se retrouver dans quelque chose où on est bercé par quelque chose. Voilà. C'est-à-dire le côté un petit peu hypnotique. C'est d'ailleurs, je n'avais pas prévu de parler d'hypnose, mais en fait, dans ce qu'on va écouter, il y a un petit peu de quelque chose comme ça. D'accord. Parce que justement, là encore, je démarre, on va démarrer dans cette, par une intervention colérique des cordes. Et là aussi, j'utilise une série. Parce que je considère que dans ce cas-là, une série est très intéressante. Donc, je rappelle ce que c'est une série. C'est une série de notes, hein, 3, 4, 5, 6, voilà, qui vont être exclusives. C'est-à-dire, on va s'obliger à n'utiliser que ces notes. Donc, ça va donner obligatoirement, évidemment, à moins qu'on choisisse Do, Ré, Mi, Fa, Sol, hein, mais on va choisir des choses un petit peu plus tordues, et ça va donner quelque chose de très surprenant. Cette intervention colérique des cordes va être suivie tout d'un coup par un rythme hypnotique qui va être installé avec des marimbas, un marimba plutôt, des clarinettes basses, contrebasses et percussions. Et là-dessus va arriver la servante, donc c'est la servante qui est l'interface entre le monde intérieur du monastère, de la réclusion, et ce qui se passe à l'extérieur du monde, et qui en l'occurrence est extrêmement angoissant. Et là-dessus va démarrer cette mélodie vocale de la servante qui est complètement déhanchée, haletante. C'est-à-dire les accents vont être décalés, déplacés, et ainsi de suite. Et petit à petit, cette pulsion va se transformer en une pulsion ternaire. C'est-à-dire qu'au début, on est dans quelque chose de très binaire. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, tat, 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 tat. Et puis tout d'un coup, tat, 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 tat. Et tout d'un coup, cette pulsion ternaire va se transformer en quelque chose de très lourd, très pesant, volontairement maladroit, presque, ainsi de suite. Et c'est là que va intervenir le cœur des villageois qui va exprimer leur énorme inquiétude.
Encore un moment complètement différent. La série est toujours là, effectivement, mais elle n'a pas pour mission de faire le même travail que précédemment. Alors tout à l'heure, tout d'un coup, tu m'as donné le moyen de passer aussi quelque chose, car n'oublie pas que nous sommes avant tout, nous autres musiciens, que nous soyons interprètes ou surtout, comme c'est ton cas, compositeurs, des passeurs de ce que l'on appelle le beau, en tout cas ce qui pour nous est le beau. Et tu as parlé tout à l'heure de Léonard de Vinci. Ben, Léonard de Vinci est allé, c'est très curieux ce que tu m'as dit, tout à fait dans le sens de la mobilité, comme ça, de la pulsation qui devient une nécessité, un peu comme pour Dante, hein, cette pulsation. Pour lui, c'était l'amour. Pour Léonard, c'est autre chose. Je ne sais pas si tu as entendu parler... Tu sais, Léonard était musicien. Il jouait beaucoup de luth, il improvisait.
Il a inventé, d'ailleurs,
des instruments. Et puis, il a composé... on en a quelques bribes seulement, plutôt de ce que l'on a reconstitué, si tu veux. Mais surtout, les paroles, on les a intégralement. Ça s'appelle « Movesi lamente ». Per la cosa amata. Tu cherches sur YouTube, tu vas trouver ça.
Je connais pas, je vais regarder.
C'est un peu moyenâgeux, bien entendu. On est juste à la sortie du Moyen-Âge. Mais il y a cette fulgurance, si tu veux, que il faut se déplacer vers la chose aimée. Movesi, c'est-à-dire l'amant, se déplace jusqu'à ce qu'il trouve la chose aimée. Et finalement, on comprend, et bon, pour nous, c'est l'amour de la musique, ça peut être l'amour aussi d'une personne, tout ça, mais que finalement, ce qui est le plus important, en tout cas, moi, ça a été, ça, si tu veux, la terminaison, je dirais, si l'on peut parler un peu prétentieusement de la fin d'un chemin initiatique, cette terminaison est que l'essentiel, ce n'est pas d'être aimé, mais c'est d'avoir quelque chose, et encore mieux, quelqu'un à aimer. Et ça, c'est pas facile.
Oui, non.
C'est pas facile parce que on a souvent, on est compliqué. Hein, on voudrait bien que pour pouvoir aimer l'inaccessible étoile, eh bien, il faudrait que ou bien l'œuvre ou bien la personne ou les deux, eh bien, coche toutes les cases, qu'elles soient ceci, cela. Et la musique, je trouve, c'est un peu pareil. C'est un peu pareil pour que véritablement elle puisse être aimable dans le sens, c'est-à-dire qu'on puisse l'aimer, elle doit avoir une infinité de qualités, une infinité, qui sont des fois des choses très très simples, n'est-ce pas? Quand tu écoutes Rigoletto, qu'y a-t-il de plus simple que ça? Mais à l'intérieur, on sent, si tu veux, quelque chose qui vient de loin et qui est fait pour transmettre, tu vois? Voilà.
Exactement. Moi, une des réponses que je peux apporter, c'est la passion.
La passion.
Tout se ramène à la passion. Et c'est ce que dit Léonard, c'est ce que dit Dante. C'est l'amour qui meut le soleil et les autres étoiles. Et c'est beaucoup plus modestement ce que je dis quand je parle tout le temps de séduction. Hein, c'est-à-dire séduction dans le sens, voilà, je suis passionné par quelque chose et je vais vous emmener avec moi. Et vous allez partager peut-être pendant un moment ma passion. Et je le disais le mois dernier, chaque fois que je compose quelque chose, tout ce que je compose, c'est parce que ça me passionne, parce que je me séduis moi-même. Voilà. Alors, ça peut paraître extraordinairement prétentieux, mais c'est la réalité. C'est quand je trouve une idée musicale, si moi-même elle ne m'emballe pas, je la mets au panier. C'est un petit peu ça.
C'est ça.
Et c'est ça. Quelque part, c'est ça. L'amour mène le monde, parce que l'amour, c'est la vie. Et il n'y a rien de plus terrible qu'une vie sans passion, sans objectif, sans but. La seule chose qui peut faire de nous des êtres vivants qui ont une certaine conscience de la noblesse de leur existence, justement, c'est d'agir, c'est d'aimer, c'est de passionner, c'est d'attendre, c'est d'espérer. Moi, je suis un grand défenseur de l'espoir. Voilà. Tout le temps, on me dit « Ah non, mais l'espoir, c'est pas bien. L'espoir, il faut pas espérer, il faut rester dans le présent. » Au contraire, tout est dans l'espoir. Je compose une musique dans l'espoir qu'il y a des gens qui vont être emballés par ce truc, pas tellement pour qu'on dise « Ah, oh, Éric Breton, c'est un type extraordinaire », mais pour qu'à un moment donné, on va faire passer quelque chose. Ouais, tu parles très justement de l'amour humain, de l'amour... c'est exactement la même chose. On n'aime pas uniquement pour être aimé, pour qu'on dise « Ah, un tel, il est vraiment quelqu'un que...
Non, pas du tout.
C'est aussi le contraire. Pour donner, pour aimer quelqu'un et aimer le reste de l'humanité, c'est aussi essayer de se mettre en vibration avec les autres, voilà, avec le reste de l'humanité. Et très sincèrement, moi, je pense que c'est ça que nous devons mettre en exergue dans notre vie, c'est-à-dire qu'est-ce que je peux faire pour être digne de ma condition d'être humain et faire que je me sente un tout petit peu utile, même si c'est fugitif. Je ne veux pas démarrer trop longtemps dans tout ça, mais moi, il y a un temps de conjugaison qui m'a toujours fasciné, en tout cas depuis un certain temps, c'est le futur antérieur. Voilà. Ce que j'étais, je ne le suis plus. Ce que je suis là actuellement, ça dure quelques secondes. Ce que je serai, je ne le sais pas. Mais ce que j'aurais été, ça, personne ne pourra me l'enlever.
Et le temps passe.
Et le temps passe.
C'est le cas de le dire. Hein. Alors,
fuyons.
Douze images, comme disait Massenet. Voilà. Hein.
Alors, exemple suivant. Donc, c'est une mélodie. Donc, c'est un moine qui va exprimer comment il est arrivé à la vie monastique. Et là, j'ai voulu choisir cet extrait parce que c'est un exemple pour moi de mélodie continue dans laquelle l'orchestration a presque autant d'importance. Et donc, le chant suit les inflexions de la phrase, bien évidemment, comme d'habitude, mais l'orchestre va colorer chaque idée, pratiquement, d'une manière personnalisée. Et là, c'est assez typique de ma conception et de ma manière d'orchestrer, c'est-à-dire que j'essaie le plus possible d'utiliser les timbres un petit peu ce qu'on appelle purs. C'est-à-dire de ne pas être toujours dans la doublure. Les bois doublent les cordes qui eux-mêmes doublent les cuivres, et ainsi de suite. Voilà. À un moment, il y a un petit tapis de cordes avec un contre-champ, puis tout d'un coup, c'est les bois qui arrivent, et puis tout d'un coup, on a des cuivres, et ainsi de suite, de manière à ce que tout reste très léger et pas pesant derrière, et que chaque fois, il y ait une petite couleur un petit peu différente.
Ce sont les bases de l'impressionnisme, ça.
Alors, ce sont les bases de l'impressionnisme.
Cette légèreté fantomatique. Voilà,
exactement.
Ce brouillard.
Voilà.
On écoute ?
Ah, on écoute.
Pour moi, orphelin, j'allais sans but et sans repère. Mon enfance fuyait avec elle mes rêves. Il n'est pas plus grande douleur que de se souvenir des jours heureux. La lumière de mon regard s'éteignait comme l'horizon, assombri par les nuages gris d'une tempête proche. Des mirages violents ont perverti mon âme, et j'étais enivré d'un alcool si profond qu'il m'a fait sembler droit le chemin tortueux. Comme les voiles gonflées par le vent coulaient enveloppées lorsque le macéron ainsi chuta ma pauvre jeunesse. Il est un lieu là-bas qu'attristent les ténèbres. Transpercé par le soleil qui brille à ton front, voit le vent, la vague, voit l'herbe, les fleurs, les oiseaux et les arbustes.
Bah écoute, encore quelque chose de complètement, je dirais, différent, tout en ayant toujours la même substance. Parce que ça, quand même, c'est important, je trouve. C'est peut-être la chose la plus importante pour un compositeur, et je dirais même pour un artiste, toute discipline confondue, c'est la signature. Tu regardes une œuvre de Picasso, par exemple, immédiatement, c'est Picasso. Tu entends une musique de Mozart, ça ne peut être que Mozart, tu vois. Tous ces gens-là, bon, à d'autres échelles, bien entendu, on peut quand même, je pense, se fixer sur ce besoin de véritablement approfondir jusqu'au plus profond de l'âme sonore et artistique pour montrer ce qu'est la signature d'un artiste. À mon avis, c'est ce qu'il y a de plus difficile, ça.
Oui, mais on revient une fois de plus à cette notion de mélodie.
C'est-à-dire que toujours la mélodie.
Voilà, on est toujours dans la mélodie, parce que ce qui va donner véritablement une sensation d'expression, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à quantifier, mais qui se retrouve toujours. Et moi, par exemple, depuis de très nombreuses années, les gens qui suivent un peu mes compositions me disent, c'est quand même, il y a quelque chose d'incompréhensible et de difficile à expliquer, bien que ça soit tout le temps différent, on reconnaît immédiatement ta patte, on reconnaît ton style. Voilà. Et c'est la vérité, parce que je n'écris que des choses que j'entends réellement dans ma tête. Et l'exemple suivant, là, que nous allons écouter, c'est un chœur de trois moines, voilà, qui vont tout d'un coup dire qu'eux, ils veulent résister, enfin, ainsi de suite. Et cette mélodie, je l'ai choisie, enfin, cet extrait, je l'ai choisi parce que justement, c'est une mélodie que j'ai commencé par chanter et chantonner moi-même. Voilà, j'ai pris le texte que j'avais écrit. Alors, je reviens encore une fois de plus, et c'est rapidement, sur cette notion que je peux écrire sur le beau teint, s'il faut, mais qu'un texte noble porte une inspiration noble.
Oui, oui, voilà. Oui, oui.
Et c'est pour ça que j'ai voulu écrire ce texte très poétique, peut-être un peu recherché, mais qui, moi, m'amène sur une expression qui me paraît être l'expression idoine. Et donc, là, dans ce cas-là, je me suis dit ce texte, je me suis dit, et puis je me le suis chanté, je me le suis chantonné. Et c'est une fois que je suis arrivé à une espèce de forme définitive de cette mélodie que je l'ai écrite et que je l'ai orchestrée. Voilà. Justement parce que j'essaie toujours de sortir de ce côté intellectuel qui entraîne très souvent à se sentir obligé de composer des choses complexes pour dire, voyez, moi, regardez, là, je fais des choses très compliquées, j'arrive à faire un contrepoint à 8 voix, atonal, voilà. Non.
Comme on ça le dit, n'intéresse personne.
Voilà, ça n'intéresse, honnêtement, ça n'intéresse
c'est
personne.
Clair.
Voilà. Ça n'intéresse à la limite que des grands spécialistes. Voilà, moi, des fois, ça m'intéresse de voir des trucs extrêmement compliqués. Mais bon, pour le côté intellectuel, voilà. Donc, moi, en fait, je laisse parler le texte, je le chante, je le rechante, je l'écris et je l'orchestre dans la foulée. Et ça fait quelque chose que c'est ce que j'appelle pour moi l'évidence. Voilà. Et on a un résultat qui est évident. C'est-à-dire qu'on se dit, ben c'est vrai, ça n'aurait pas pu être autrement que ça, quoi, tout compte fait.
Eh ben, écoutons l'évidence.
Frère, frère, ne prenons pas nos vœux à la légère, soyons fidèles. Inamovible par la fermeté de notre regard.
aimeront, espéreront.
Voilà.
C'est un trio hein, qu'on a entendu là. C'est un trio, tout à fait. Oui, mais c'est, là aussi, c'est, comment dire, un peu inattendu. Ça aussi, je pense, c'est... je ne me souviens pas, je crois que c'est Walter Pater qui disait... je ne suis pas sûr de ce que je dis, mais je pense que oui. Qui disait, le romantisme, c'est l'étrangeté ajoutée à la beauté. Il y a un peu de ça. Il faut que ce soit quand même... un peu étrange pour qu'on ait envie d'aller un peu plus loin. Oui, qu'est-ce que tu en penses?
Ben je pense exactement la même chose. C'est-à-dire il faut que quelque part, on ait une espèce de petite obscurité, enfin de sentiment d'obscurité. Quand je dis obscurité, c'est dans le sens noble. C'est-à-dire quelque chose qui nous attire un petit peu comme on est attiré par une grotte, quelque chose comme ça. On revient toujours dans cette idée de séduction. Il y a quelque chose... Le grand soleil, c'est très bien. Voilà, je suis pour, d'ailleurs, l'opéra s'appelle Le soleil et les autres étoiles. Mais... tout ce qui est peut-être trop sans arrière-pensée, quelque part, nécessite de temps en temps de repartir sur quelque chose d'un petit peu plus obscur, d'un petit peu plus surprenant, presque inquiétant aussi. C'est aussi la grande force de la musique tonale, c'est-à-dire en permanence d'être dans cette tension qui va être résolue. Mais une fois que la tension est résolue, ben, il faut revenir vers quelque chose qui... nous fait sentir un petit frisson de quelque chose. Voilà, donc c'est exactement ce que tu dis, quoi. Il faut un petit peu d'obscurité de temps en temps, de romantisme, et le romantisme, c'est ça, c'est ce petit frisson, voilà, qui va être résolu après.
Et alors, est-ce que tu as aussi, parce que moi, je j'aime bien toujours avoir quelques comparaisons, tu vois, des gens actuellement à qui... tu pourrais te référencier des compositeurs
alors, ben,
français, étrangers, que sais-je, je sais pas.
Ben oui, quelques-uns, mais en fait, pas tellement. En fait, je dirais, je ne veux être méchant avec personne, mais je dirais que j'écoute les autres compositeurs essentiellement pour voir où se situe la différence entre ce que je fais et ce qu'ils font. Pas pour me convaincre de ma supériorité ou pour convaincre qui que ce soit, mais... simplement pour mieux cerner, en fait, mon propre langage.
Oui, voilà. Oui, je comprends
c'est
sûr.
Donc, tout m'intéresse. Hein. Moi, je suis un passionné.
De toute façon, les artistes, c'est pi. C'est pi, c'est obligatoire.
Et très souvent, il m'arrive d'entendre des choses où je me dis, ah, tiens, ouais, bah, d'ailleurs, John Adams, c'est dans l'exemple précédent. Voilà. Alors là, j'avais choisi deux exemples de compositeurs contemporains et de pièces très contemporaines. Très récente. La première, c'est de Francesco Filidei, qui est un compositeur italien.
Je connais absolument pas.
Qui a composé il y a quelques années un opéra sur Giordano Bruno.
Ah.
C'est un fantastique compositeur. Mais justement, quand j'écoute ça, je me rends véritablement compte de ce qui me différencie de cette norme de l'opéra contemporain. Parce que moi, ce que je vois là-dedans, c'est ce que j'entends plutôt, c'est que pour chercher des nouvelles pistes, certains compositeurs prennent un langage modal, hein, donc j'ai expliqué ce que c'est-à-dire on a droit à certaines notes, mais évidemment le problème c'est qu'on est prisonnier de quelque chose d'un carcan extrêmement réduit. Voilà. Et on va noyer ça ou contrarier ça par une orchestration extrêmement complexe, basée sur beaucoup d'effets sonores, qui elle sera atonale. Hein? Donc atonal avec cette idée de détruire en permanence la sensation de tonalité des notes précédentes. Donc on a cette cohabitation du modal et de l'atonal avec l'absence totale de pulsation, donc pas d'harmonie, pas de pulsation, et à mon avis, ce que j'entends, avec tout le respect que je dois à ces compositeurs, c'est ce que j'appelle un récitatif permanent,
hein,
qui est saupoudré d'effets sonores. Alors écoutons un extrait de Filidei et Giordano Bruno.
Thank you. torrido, dove la tua vita c'è, lo vestigio.
Le deuxième exemple, c'est de Dussapin, qui, l'année dernière, a créé Il Viaggio Dante à Aix-en-Provence.
Voilà. Voilà. Oui, ça, oui. Et, ça bon, je connais.
Je ne vais pas en dire plus, mais c'est un petit peu le même principe. Quoi. C'est-à-dire qu'on a une mélodie, on a des mélodies modales. Hein, c'est-à-dire il y a... Donc, la modalité, le problème de la modalité, c'est que ça n'induit pas, ça n'entraîne pas une structure harmonique derrière. Et c'est la structure harmonique qui entraîne le principe tension-résolution.
D'accord.
Voilà. Donc ça, on l'a plus. Et il habille ça d'une orchestration absolument fantastique. Alors il y a des effets extraordinaires. Mais pour moi, on noie l'ensemble.
La révérence que s'il donne a dit tout me pour perdre et perdre. Mi richinava come l'uom che sonna.
Beatrice, dove ti Dio fida, che non so come vivere tanto.
Tout à fait ce que tu dis. Et si tu le permets, parce que finalement, comme tu dis, on noie, c'est ça. Et la difficulté, c'est toujours bien accorder le fond avec la forme. C'est ça, finalement, l'œuvre d'art. Il faut que, Victor Hugo disait, bien entendu, tu le sais, la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Mais encore faut-il qu'il y ait un fond. Le problème de l'œuvre d'art, me semble-t-il, essentiel, c'est cela. Et je pense que la grande prouesse des grands compositeurs ou des grands poètes, tout d'un coup, j'ai une idée, je ne sais pas pourquoi, c'est à cause de ce que tu as dit sur le flux, l'eau, je ne sais pas quoi, qu'est-ce que tu as dit. Enfin, bref, je pense à un grand génie, qui a réussi en peu de choses à nous faire voir en même temps le fond et la forme et le symbole né de ça. C'est Paul Valéry.
Oui, oui, oui.
C'est Paul Valéry.
J'ai cru que tu allais dire Wagner.
Non. Tu sais que je suis un Wagner, bien entendu, à endurci. Non, mais c'est Paul Valéry.
Oui, Paul Valéry.
Je prends une image, si tu veux. Wagner, c'est compliqué. Mais pour que tout le monde, véritablement, si tu veux, comprenne ça, ce que je voudrais faire passer, c'est cette chose-là. Comment condenser le fond, la forme et le symbole né. Je pense à Paul Valéry. La fin du cimetière marin,
ah oui.
Composé d'or, de pierre et d'arbres sombres, où tant de marbre est tremblant sur tant d'ombre, la mer fidèle y dort sur mes tombeaux. Le symbole apparaît,
symbole apparaît
du mélange.
Il émerge.
Du fond et de la forme. Et tout ça, c'est très court et c'est merveilleux, c'est fabuleux. Alors, on passe à l'extrait suivant.
Alors là, c'est. J'ai choisi celui-là. Il est un petit peu long, je ne sais pas, peut-être Nancy verra si elle garde tout. Mais c'est pour montrer aussi une autre facette. C'est-à-dire qu'à certains moments, je peux choisir. Un mode d'expression, si on peut dire, ou un monde musical, un système musical, qui a priori n'est pas tellement le mien. Mais justement, par cette capacité de digestion que j'ai, dont on parle depuis quelques quelques minutes, c'est que justement j'arrive à le régurgiter encore dans quelque chose qui est très à ma manière. Voilà. Alors, je raconte une toute petite anecdote rapide. J'étais dans un train et je m'interrogeais beaucoup sur une certaine scène. Alors, dans une certaine scène, le moine novice va recevoir l'ordination. Et puis, vont arriver les terroristes, si on peut dire. Enfin, va arriver le mal et tous les moines vont être oxy. Et alors, c'était pas facile déjà. Bon, pour le texte, déjà, c'était pas simple. Que faire dire à tous ces gens-là? Et donc, j'ai fini par choisir de ne pas mettre de texte. Ben. Ce qui était déjà un parti pris assez intéressant. Mais une fois arrivé à ça, je me suis dit comment je vais composer la musique. Voilà. Et donc, j'étais dans le train, j'allais à Strasbourg, et puis je lisais un bouquin de Carole Beffa. Carole Beffa, c'est un compositeur actuel français qui est un gars très très intéressant, qui écrit des choses très intéressantes. Et il parlait de John Adams. Il parlait de la manière de composer de John Adams, qui est un compositeur américain, minimaliste, voilà. Et je me suis dit, tiens, c'est peut-être pas une mauvaise idée. Alors, ça a fait son chemin dans ma tête, et effectivement, je suis parti d'un thème minimaliste. Et c'est une séquence de presque 7 minutes dans laquelle il ne se passe quasiment rien. Et justement, j'ai choisi ça pour être vraiment le contrepoint absolument inverse, contraire de ce qui se passe sur scène. C'est-à-dire, il y a ce jeune moine qui va tout d'un coup, j'appelle cette scène, je l'appelle la transfiguration du moine, et puis tout d'un coup, les autres moines qui vont s'agenouiller, mourir, pour être fidèles à leur objectif, à leur idéal, et tout ça avec une musique qui va s'installer très doucement, tout, 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 tout. Mais je le dis pour les auditeurs, là, si vous avez un téléphone ou un métronome ou quelque chose, à 4 minutes 20, justement, tout d'un coup, il y a une mélodie de basson qui va monter sur un sol dièse, parce que cette musique est uniquement modale, hein, c'est-à-dire on est sur un mode de la mineur. Hein. Alors, je rappelle rapidement, le mode, c'est un peu comme la série, c'est-à-dire on a droit à certaines notes et pas à d'autres. Ce qui fait qu'on reste dans quelque chose extrêmement confortable. Il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de tension, il n'y a pas de
très identifiable. Voilà,
très identifiable. Mais tout d'un coup, on a ce basson qui va monter sur un sol dièse. Alors déjà, c'est la septième majeure. Alors c'est très perturbant. Et en plus, c'est un sol dièse très aigu, ce qui fait que c'est presque une des notes les plus aiguës pour le basson. Et cette note va donc d'autant plus être fragile, être un petit peu pénible, voilà. Et puis après, il va y avoir un motif de cuivre extrêmement simple qui va suivre un système qui a été utilisé par tous les grands compositeurs, c'est-à-dire d'abord exposé très lentement, puis on resserre, et puis c'est encore resserré, ce qu'on appelle le stretto, ainsi de suite. Voilà. Et ça va faire que tout d'un coup, on se dit, là, il va se passer quelque chose, il va y avoir un truc énorme, et tout d'un coup, ça s'arrête sans prévenir, parce que c'est justement le moment où tout le monde, tous les moines meurent. Voilà. Donc c'est un exemple d'une utilisation totalement inattendue de choses qui ne sont pas dans, a priori dans mon monde, mais que j'intègre dans ma propre manière.
On l'écoute ?
Thank you.
écoute, oui, tout ça, c'est finalement ce que tu viens de nous faire entendre. Ce sol dièse là-haut, qui culmine là-haut, qui fait peur, c'est la mort.
C'est justement ça, c'est le moment c'est où, tout d'un coup, ce qui pouvait paraître comme, comment pourrait-on dire, extrêmement paradisiaque, voilà, c'est cette cérémonie où le jeune novice va être initié, on peut le dire comme ça. Tout d'un coup, bam, y a ce sol dièse qui arrive et qui dit « Attention, la roche tarpéienne est près du Capitole, si ouais, on peut dire. »
D'accord, d'accord. Ah ouais, c'est...
Merci infiniment.
Bon, cher Eric, tu nous as vraiment présenté quelque chose de vraiment très, très, très intéressant. Je reparlerai de tout ça à la rentrée. Maintenant, on va avoir les vacances, on va avoir. Nous, on va se voir certainement cet été.
On a
des projets ensemble, déjà concernant cet opéra-là. Et puis, je donne rendez-vous pour le mois de septembre à nos auditeurs qui sont si fidèles et si charmants et qui nous le montrent. Merci, Nancy. De votre compétence. Merci, mon cher Eric.
Merci Christian, merci Nancy et merci aux auditeurs.
Et voilà. Et puis, bon été à tous et au mois de septembre. Bye bye! Thank you.